Bibin, le magazine qui explore, qui voyage, qui découvre. Suivez nos micros sur les chemins de traverse.
Cette semaine, on met ses bottes pour parcourir nos ribines. On va sillonner les carrés de légumes et de fruits de la ferme de Tiraden. C'est celle d'Anne Raoulas, une jeune maraîchère installée sur les hauteurs de Pont-de-Buis-les-Quimères. Et elle s'est lancée après avoir été secrétaire de direction pendant 8 ans. C'est un virage radical donc. Et c'est aussi un choix de couple. Son compagnon la soutient, même s'il a pour l'instant un autre emploi. C'est également une aventure. La tempête Ciaran a durement frappé les serres de l'exploitation après l'enregistrement de ce reportage. Mais Anne Raoulas a gardé sa détermination et sa motivation. Elle y croit, comme tant d'autres de ces jeunes femmes ou hommes qui font le choix de l'agriculture. Et dans le cas d'Anne Raoulas et de son conjoint, c'est l'agriculture biologique. Le BPREA, le brevet professionnel de responsable d'entreprise agricole, c'est indispensable, certes, mais ça ne suffit pas. À la ferme de Tiraden, il a aussi fallu préparer le terrain. Dès 2018, donc, Anne Raoulas travaille à mi-temps pour préparer les 3,8 hectares de terre.
On a mis beaucoup de compost, tout ça. Enfin, on a préparé les parcelles aussi sur le terrain. Et on a planté pas mal de petits fruits, d'aromatiques et quelques fruitiers aussi. En 2020, du coup, j'ai arrêté de travailler à côté. Je me suis installée, j'ai fait le parcours d'IGIA en fait à la Chambre d'agriculture. Jeune agricultrice en fait, voilà, c'est un parcours qu'on fait à la Chambre d'agriculture pour avoir des aides à l'installation. On est aidé un peu pour tout ce qui est investissement, par exemple l'achat des serres, tout ça. C'est qu'en 2022 que je me suis vraiment installée, en février 2022. Donc ça fait 1 an et demi maintenant en fait.
Pourquoi est-ce que tu as voulu changer de parcours professionnel?
Avant, en fait, dans mon métier, j'étais tout le temps enfermée, enfin, dans un bureau, et j'avais besoin d'un métier aussi un peu plus utile, en fait. Je voulais me sentir utile au niveau local aussi. Puis le contact aussi avec le vivant, préserver aussi un peu l'environnement, tout ça, c'est des choses qui me parlaient. Donc c'est pour ça que j'ai changé de cap, on va dire.
Toi, le maraîchage, tu connaissais? C'était une culture familiale, par exemple?
Mes parents avaient un grand potager en fait, donc j'étais assez sensibilisée à tout ce qui était nature, environnement, même légumes. Après j'ai appris un peu sur le tas aussi, en me cultivant beaucoup sur internet, des livres, tout ça en fait.
Donc ton exploitation elle fait 3,8 hectares là, et tu peux nous décrire un petit peu le paysage qu'on voit d'ici, puis comment tu es installée, où est-ce que tu es?
Oui, donc en fait, je suis à Tiraden, à côté du vieux bourg de Quimères. Ben, vu de la ferme, on voit le Ménésum, on a une vue panoramique en fait sur l'ensemble des collines en face, on voit Pont-de-Buis aussi. Et puis après, c'est très bocager en fait autour de la ferme, il y a beaucoup de talus avec plein d'arbres. Puis c'est très venteux aussi.
Oui, parce qu'on est sur le coteau donc, qui donne, c'est un coteau qui donne au sud.
Et donc, au printemps, on a beaucoup d'avance sur les cultures sous serre pour les légumes primeurs. Mais par contre, l'été, quand il fait vraiment chaud, c'est compliqué. Des fois, ça peut être compliqué parce qu'il y a des cultures qui prennent pas du tout, comme les légumes feuilles, tout ça, les radis, les blettes. Ça monte vite en graines aussi. Donc, on est obligé de miser plus l'été sur des cultures un peu plus classiques, comme les tomates, aubergines, poivrons, piments, voilà.
Et donc, le maraîchage, est-ce que c'est un métier d'avenir? Est-ce que économiquement, on peut s'en sortir? Quel est ton modèle économique? Et lors de tes études, tu as travaillé cet aspect-là?
Oui, pendant l'étude, en fait, on travaille ça aussi. Tout ce qui est investissement, en fait, à prévoir au début. Par exemple, ici, en Bretagne, on est obligé d'investir dans des serres pour avoir quand même des légumes d'été assez tôt dans la saison, quoi. Donc, on est obligé d'investir dans des serres. Pour l'instant, on n'a que 4 serres et je trouve que c'est un peu petit pour les rotations en fait. Et je vais agrandir, l'année prochaine, j'aurai une autre serre de 200 mètres carrés en plus pour être bien dans les rotations de légumes en fait. Parce que les tomates, ça représente, pour avoir une idée, par exemple 30% du chiffre d'affaires annuel quoi, sur une ferme en maraîchage à peu près. Voilà.
Et les tomates, pour rebondir sur ce que tu dis, les tomates, donc ça se cultive ici uniquement sur serre? À cause du mildiou?
On peut cultiver dehors aussi, mais il y a des risques de maladies et qu'elles mûrissent moins vite aussi et qu'après, elles mûrissent pas en fait et que bon, sont obligées de tout jeter. Enfin voilà. Ça dépend des années. Comme l'année dernière, c'était parfait pour mettre dehors, par exemple, les tomates. Mais cette année, bah, il pleut quand même souvent et les températures sont plutôt basses la nuit aussi. Du coup, je pense que ça va être c'est compliqué pour les tomates là cette année, peut-être dehors quoi. Ça peut marcher aussi, il faut tenter quoi. C'est...
Le maraîchage, c'est une activité locale qui permet de gagner sa vie?
Ben moi, pour l'instant, en tout cas, non. Enfin, je me verse pas du tout de salaire parce qu'il y a beaucoup, il y a eu quand même des investissements au début. Il y a l'irrigation aussi, tout le système d'irrigation. Donc ça, il faut compter à peu près 8 000 € déjà pour l'irrigation parce qu'il faut une pompe, enfin, il faut les raccords, tout ça. Les serres aussi, ben, ça coûte. Enfin là, j'ai que 4 serres, ça m'a coûté quand même 10 000 € aussi. Donc, il y a quand même un peu d'investissement au début. Après, avec mon compagnon, moi, j'ai une sécurité financière, en fait, parce que mon compagnon travaille à l'extérieur. Du coup, ça sécurise un peu le projet. Et je peux me permettre de ne pas me verser de salaire, là, pour l'instant. Mais le but, c'est que l'année prochaine, je me verse un demi-SMIC, en fait. Et j'agrandis petit à petit, comme ça, la ferme, en fait, pour être après bien, quoi. Après, le but, c'est que la ferme soit viable, quand même. Et quand mon compagnon me rejoindra sur la ferme, ben... C'est qu'au moins, je gagne un SMIC. Et lui, après, bah, il aura sa pension de la marine, en fait. On comptait faire du miel, par exemple. Lui, il voulait faire des fruitiers aussi, des petits fruits, des trucs comme ça, en fait.
Tu as fait des emprunts et tu dois les rembourser?
Alors, on a fait un petit emprunt de 20 000 € avec la banque. Et après, on a eu beaucoup d'apports personnels aussi. On avait beaucoup économisé avant en vue de ce projet, en fait. Et c'est pour ça aussi que j'ai quand même une certaine... marge, enfin, par exemple, si je loupe une culture, c'est pas dramatique. Enfin, voilà. En tout cas, au début, quoi. Après, il faut pas que je loupe beaucoup de cultures, c'est sûr, parce que sinon, c'est pas du tout rentable. Mais...
Donc, quels sont tes débouchés, ton chiffre d'affaires, voilà, tu vas le trouver où, justement?
Alors, en fait, on fait le marché de Pont-de-Buis le vendredi matin. On fait vente à la ferme aussi le samedi matin, donc directement ici. Et c'est beaucoup de voisins qui se déplacent. C'est une clientèle régulière, donc c'est très bien. Sinon, on a le restaurant aussi Terre de Braise à Rosnouen, et c'est très bien aussi. On a l'épicerie de l'Opérec où il y a David. Avant, je faisais aussi tout ce qui était CE à Leafbag, mais là, je vais arrêter parce que c'est trop irrégulier pour les commandes. Il y a de temps en temps aussi Grigri Gourmand, en fait, là-bas. Et des fois, je fais des pots de panier aussi au Chat Noir à Quimère. Et voilà.
Tu ne comptes pas faire des abonnements paniers auprès des particuliers?
En fait, je fais déjà, j'ai oublié de dire, mais à la ferme, ils peuvent aussi commander des paniers et les retirer directement, en fait, ici, le samedi matin, en fait. Donc voilà, ils réservent avant, en fait, par exemple, le mardi, le mercredi, sur ma page Facebook, parce que j'ai une page Facebook que je mets toutes les semaines à jour pour la composition des paniers, tout ça. Et un peu l'avancée des travaux, enfin voilà. Et après, les gens commandent sur Facebook. Et ils peuvent venir ici à la ferme prendre leur panier directement, ou sinon au Chat Noir aussi. Du coup, là, c'est le vendredi, par contre, midi, que je dépose là-bas. En rentrant du marché, en fait, je dépose les paniers là-bas directement.
Tu as mis combien de temps à installer une notoriété locale?
C'était assez rapide, en fait, parce que même l'année dernière, je trouvais que... pour la vente à la ferme, par exemple, ça a bien fonctionné tout de suite. Parce que, après, il y a mon voisin aussi, Joël Lagadec, qui m'a fait beaucoup de pubs. Donc, il est assez connu, là. Et puis, grâce à lui, j'ai eu pas mal de voisins qui sont venus aussi. Donc, pour une première année, c'était correct. Voilà. Et je dirais que, c'est assez aléatoire aussi. Ça dépend. Par exemple, en été, il y a beaucoup de gens qui partent en vacances. Du coup, il y a des baisses. Il faut savoir rebondir aussi. Et ne pas hésiter à aller démarcher d'autres débouchés, en fait. Pour écouler le stock, quoi. Enfin, voilà. Après, je trouve que l'automne, ça marche mieux, en fait, que l'été au niveau local, ici. Parce que les gens sont là, quoi. Et au printemps, aussi, c'est pas mal.
C'est l'été. Anne Raoulas a pu s'offrir un salarié.
Oui, bonjour, je m'appelle Philippe. Du coup, je travaille à mi-temps sur la ferme chez Anne. Donc, j'ai fait aussi le BPREA à Carlivert. Donc, j'ai fait tous mes stages au cours de l'année chez elle. Et après, j'ai découvert, grâce à un ami, cet environnement de cet endroit de Quimer. Et après, c'est pour ça, par la proximité, que je suis arrivé chez Anne. Et j'aime beaucoup cet endroit. Donc, voilà. Du coup, j'étais content quand elle me disait qu'elle pouvait m'embaucher à mi-temps pour la saison. Là, en ce moment, on est sur les poireaux. Donc, c'est une plantation manuelle, ça prend pas mal de temps. Après, c'est la récolte, ça prend beaucoup de temps aussi, la récolte, les petits fruits. Donc, après, on est sur les plantations et ça peut être aussi le marché aussi. Donc, je fais le marché une fois sur deux, enfin, ça dépend, on s'arrange avec Anne. Et c'est aussi selon les besoins, donc j'ai un emploi du temps aussi variable. Après, c'est surtout fin de semaine et une matinée ou deux en plus. Et voilà, donc c'est vraiment aussi un soutien aussi, je pense, parce que le souci du maraîchage, c'est d'être isolé et donc d'avoir... Il y a le coût de l'embauche aussi d'une main-d'œuvre, surtout quand tu peux pas te dégager de salaire, c'est compliqué. Après, on a la chance d'avoir une exonération des charges patronales en travail agricole. Donc ça, c'est vraiment une spécificité du secteur. Donc c'est un peu pour ça, nous, on a évoqué ça cette année et c'est grâce à ça aussi. Enfin, ça aide à embaucher, quoi, parce que ça demande... C'est un secteur où c'est un mode de culture qui crée de l'emploi aussi, c'est important. Sur une petite surface, parce que sur les 4 hectares, quasiment, tu cultives 4000 m2. Donc sur une petite surface, il y a vraiment beaucoup de travail créé.
C'est physique, c'est difficile ?
Oui, c'est sûr, faut pas rêver. Enfin, le maraîchage... Après, à 17 ans, j'ai fait les échalotes aussi, donc c'est vrai que c'est... C'est un peu formateur et voilà, faut pas rêver. Et c'est physique. Après, c'est quand on fait des choses aussi que ça, on entretient aussi le corps et c'est bénéfique aussi. Donc voilà, c'est aussi quand on se dépense qu'on se recharge. Et donc moi j'aime vraiment beaucoup faire. Et puis il y a aussi le contact. Il y a toute de la plantation, de la récolte et de la commercialisation. Donc Anne maîtrise ça, donc elle transforme pas, mais et puis de la satisfaction des clients, des gens au marché qui disent qu'ils retrouvent le goût des patates que cultivait le grand-père ou des produits de qualité. Donc je trouve que c'est vraiment important ici, l'environnement, la terre et les produits sont de qualité.
Qu'est-ce que tu veux faire plus tard justement, ton objectif, toi ?
Bah j'hésite encore. Si j'ai l'opportunité, peut-être de m'installer, mais c'est vrai que c'est compliqué d'en vivre. À moins de bosser comme un acharné, donc c'est un discours que j'ai eu beaucoup. Moi, j'ai fait la formation sans forcément vouloir m'installer bien en tête et se planter. Donc, je suis toujours un peu dans le doute, donc ou peut-être m'installer progressivement. Donc, essayer de trouver du terrain. Et bah, là, actuellement, j'ai la chance d'avoir un terrain qui m'est prêté, donc je me teste. Donc voilà, après c'est la viabilité de l'entreprise, enfin quand on voit la quantité d'énergie fournie, et après il y a une reconnaissance, c'est sûr, il y a une viabilité, parce que je pense que Anne est compétitive aussi au niveau prix par rapport aux marges que se font les distributeurs. Aujourd'hui on est vraiment dans le point d'équilibre où ça vaut plus le coup, et après les gens sont prêts à dépenser un peu plus aussi pour soutenir aussi quelqu'un localement et pour avoir des produits de qualité. Mais je pense que ça serait viable et c'est... Donc entre l'autonomie et le fait de se dégager un salaire, c'est toujours moi le point d'interrogation sur lequel je sais pas si je m'installerai ou pas.
D'accord, donc tu es ici jusqu'à fin septembre ou...
Début septembre, ouais.
Et donc, est-ce que tu peux évoquer justement la saisonnalité de ton exploitation ? Comment est-ce que ça fonctionne sur 12 mois ?
Bah, en gros, moi, je commence vraiment à vendre mi-avril. Après, donc là, j'ai tous mes débouchés qu'on a vus là en place. Là, je vais vendre partout. Après, il y a l'été. Donc là, c'est le gros de la saison, en fait. Et après, il y a l'automne. L'automne, c'est bien aussi. Et après, l'activité... décroît petit à petit. Et l'hiver, en fait, moi, j'arrête tout. Enfin, je fais que les épiceries, tout ça. Enfin, voilà. Parce que c'est des légumes de conservation. Du coup, j'ai un peu de stock, mais je peux écouler comme ça. Mais il n'y a pas assez de variétés pour pouvoir ouvrir, par exemple, à la ferme ou faire un marché. Ou voilà. L'hiver, moi, ça me permet de me reposer un peu aussi et d'anticiper la saison d'après pour tout ce qui est commande de graines, commande de plants, voir ce qui a marché, ce qui n'a pas marché sur la ferme. Et comme ça, après, je peux m'améliorer chaque année et puis trouver d'autres débouchés s'il y a besoin aussi. Enfin, voilà. C'est l'hiver, en fait, on travaille tout ça. Parce qu'après, on n'a plus du tout le temps de gérer tout ça, en fait, sur la ferme. Et on travaille aussi, du coup, un peu les sols, les engrais verts. S'il y a besoin, on apporte un peu de fumier, des plantations de petits fruits.
D'accord. Donc, c'est toi qui fais tous les semis ?
Avant la première année, je faisais beaucoup de semis, mais ça m'avait demandé vraiment beaucoup de temps. Et du coup, j'avais du retard sur d'autres cultures. Donc là, en fait, cette année, j'ai décidé de déléguer un peu, faire mes plants ailleurs, en fait. À part quelques plants faciles à faire, je fais moi-même, ou en semis direct, ou voilà. Mais par exemple, les tomates, poivrons, aubergines, tout ça, j'ai délégué parce que ça demande une serre chauffée. Enfin, c'est... Et moi, j'ai pas beaucoup de place dans ma pépinière et puis je préfère déléguer, comme ça j'ai un peu plus de temps l'hiver aussi pour me reposer. Parce qu'après, il faut attaquer la saison. Et ça.
Ah oui, d'accord. Puis les semis, il faut réussir. Et à qui tu délègues justement ça?
En fait, là, j'ai trouvé la facilité. Il y a un dépôt de. C'est Biosem en fait à Plougastel. Et sinon, on avait aussi trouvé une jeune pépiniériste qui s'est installée à Dinéol. Ses plants étaient super et je pense que je vais recommander là-bas cette année aussi une partie.
Qu'est-ce que tu cultives et quelles sont les difficultés en fonction des légumes, par exemple? Alors, tu parlais des petits fruits aussi, mais on peut faire le tour de ce que tu cultives?
Oui. En gros, je cultive 300 mètres carrés d'aromatiques. Pour faire des petites tisanes, comme on voit là, des petits sachets de tisane en fait. Je déshydrate tout ça, puis après je mets en sachet, puis voilà.
Comment tu fais pour déshydrater?
J'ai un déshydrateur électrique à la maison, et je mets dedans en fait, et en un jour, deux jours, c'est sec, et après je mets dans des petits sachets comme ça, de 50 grammes à 100 grammes à peu près. Et c'est beaucoup de verveine citronnée que je fais, de mélisse, de menthe, et après quand j'ai un peu plus de temps, de la sauge, de la camomille romaine, ça peut varier, enfin voilà. Sinon, il y a les légumes, donc c'est ma production principale. Après, il y a des petits fruits aussi, donc cassis, groseilles, fraises et mûres aussi.
Cette façon de cultiver le sol, comment ça s'appelle? Ce serait... comme la biodynamie chez les vignerons, c'est quoi? C'est
Le non-travail du sol?
Oui, oui. Qu'est-ce que c'est alors?
Mais en fait, le but, c'est c'est de pas travailler du tout le sol pour préserver la vie microbienne en fait, et tous les échanges qu'il peut y avoir entre, par exemple, les champignons, tout ça, enfin les différents horizons en fait du sol.
Et un horizon, qu'est-ce que c'est?
C'est les strates en fait. Ouais, voilà. Ces différentes strates en fait, je sais pas comment expliquer.
Dans la profondeur du sol?
Ouais, voilà, dans la profondeur du sol. Ici, la ferme, en fait, moi, je veux vraiment pas travailler le sol. Enfin, on travaille un peu le sol au début, pour à la grelinette, en fait, pour quand même décompacter un peu le sol, pour que les légumes puissent se développer avec leurs racines. Mais après, on touche plus du tout et on apporte beaucoup de matière organique par-dessus. Par exemple, ça peut être varié. Ça peut être de la paille, de l'herbe tondu, de l'engrais vert, qu'est-ce qu'on peut apporter? Les déchets des cultures aussi, quand on récolte par exemple, on les fait propres en fait, avant de les ramasser, de les vendre. Du coup, on laisse tout sur le sol et comme ça entretient toute la vie se fait en fait. Les vers de terre sont contents, ils viennent chercher de la nourriture, du coup ils font des galeries dans la terre, donc la terre après est aérée et le but c'est que sur 2-3 ans, on n'ait plus du tout besoin d'intervenir, en fait, et que la terre soit souple et fertile, en fait, et qu'on plante directement dedans.
J'ai vu que tu avais du compost des quatre vents, là, de Rose Noël, justement, là.
Non, c'est pas de Rose Noël. C'est une plateforme, en fait, de Douarnenez. C'est un mélange d'algues vertes et de déchets, en fait, voilà. Et il est très bien ce compost. Et puis on s'en sert pas mal en fait pour mettre au début. Par exemple, dans les serres, on en met pas mal au début parce que les tomates, par exemple, c'est gourmand et elles ont besoin de beaucoup de nourriture. Et là-dedans, en fait, elles se développent vraiment bien. Après, le seul inconvénient avec le compost, parce qu'on ne mélange pas à la terre, c'est que ça s'assèche beaucoup en surface d'été. Il faut beaucoup, beaucoup arroser pour que ça se décomposte, tout ça en fait.
Dans la serre?
Dans la serre, ouais. Et parfois dehors aussi, parce que le vent qui assèche, le soleil, enfin, c'est... Et sinon, il faut pailler beaucoup, quoi. C'est l'un des secrets aussi pour...
Pour garder l'humidité
dans le sol, ouais.
T'as D'accord. Et donc, il n'y a jamais de travail en profondeur du sol. Du coup, tu as fait une fois la grelinette.
Voilà, une fois, voilà, c'est ça. Et puis après, le but, c'est d'entretenir tout ça une fois par an, donc avec le travail de la grelinette. Et après, on entretient, la fertilité du sol avec des engrais verts, tout ça. On va faucher, on va remettre, par exemple, du compost par-dessus les engrais verts pour qu'ils se décomposent. Et après, on va planter à travers et ça fait sa vie, quoi.
Ah, d'accord, ok. Donc, c'est des couches de azote carbone,
voilà,
par exemple, quoi.
C'est ça, voilà. Après, il faut trouver l'équilibre pour chaque culture parce qu'il y a des cultures beaucoup plus gourmandes. Il y a des cultures qui ont... Par exemple, les salades, elles n'ont pas besoin de grand-chose pour pousser. Les radis, pareil, elles n'ont pas besoin de grand-chose. Et il y a des cultures, par exemple, aussi, les carottes. Il faut que le sol soit vraiment parfait. Et là, on est obligé, par contre, d'affiner le sol en surface pour que les graines germent bien, en fait. Sinon, on n'aura pas de carottes. Donc, c'est... On a un projet avec mon compagnon, du coup, de faire un hectare d'agroforesterie, en fait, tout en bas du champ. Et il y aura des fruitiers mélangés à des arbres forestiers, en fait, et des arbres fixateurs d'azote. Le but, après, c'est de cultiver, donc d'agrandir les légumes, de cultiver en dessous les arbres, en prévision des années chaudes, caniculaires, voilà. Préserver l'eau aussi, tout ça. Sinon, c'est tout, je crois.
Et donc là, le terrain s'étend jusqu'aux arbres qu'on voit en bas, là ?
C'est ça, voilà, ouais.
D'accord. Et il y a des saules là-bas, on dirait. C'est un terrain qui est humide
Alors, en bas, en fait, ici, là, à gauche, normalement, c'est une zone humide. Là, c'est protégé. Du coup, on ne peut pas du tout intervenir, en fait. Mais par contre, là-bas, où on a construit la mare, en fait, il y avait beaucoup de joncs aussi. C'était une zone humide, mais ce n'était pas protégé. La pluie de l'eau est venue et puis on a pu quand même la faire. Et il y a une petite source qui coule, en fait, directement. Et c'est ça qui permet de remplir la mare. Et après, on n'a pas du tout bâché, donc l'eau peut s'évacuer aussi en bas. Enfin voilà, il n'y a pas de souci pour l'écologie autour, quoi. Donc,
La mare n'est pas bâchée ?
Non, du tout, non.
D'accord, donc c'est une terre glaise naturelle ?
Voilà, c'est ça. Ils ont tassé, en fait, la terre glaise et c'est fait une sorte d'imperméabilité, en fait, du sol. Et du coup, l'eau reste un peu là aussi. Mais après, il y a des petites fissures et du coup, elle peut s'écouler quand même en bas et tout.
Mais elle est remplie au fur et à mesure par la source, quoi.
Voilà, c'est ça. Et après, il y a un peu d'eau, parce qu'on est en pente sur le terrain, il y a un peu d'eau de pluie aussi qui coule là. Mais on est obligé de faire des analyses régulières tous les 6 mois pour analyser l'eau, pour voir si on peut l'utiliser pour les légumes, tout ça. Ça, c'est une obligation qu'on a en bio de faire ça.
D'accord. Et justement, est-ce que les normes bio sont contraignantes ? Est-ce que ça pèse beaucoup sur l'exploitation ?
Enfin, non, moi, pour moi, il n'y a aucune contrainte. On a des contrôles, en fait, 2 fois dans l'année par le certificateur bio. Donc, une fois, c'est un contrôle prévu. Donc, on fait le tour de la ferme, on contrôle tout. Enfin, voilà. Et il y a une autre fois où c'est un contrôle surprise. Il peut venir quand il veut, voir un peu, par exemple, une culture. Enfin, il voit très bien si on ment ou pas. Et puis après, derrière, il y a des sanctions si on ne respecte pas le cahier des charges, en fait, bio, quoi. C'est pas contraignant pour moi, en tout cas.
D'accord. Et comment est-ce que tu t'inscris dans le paysage agricole breton ou finistérien ou local ? Il n'y a pas de problématique particulière
Moi, ici, je ne trouve pas. Je m'entends super bien avec mon voisin aussi, donc il n'y a pas de souci.
Il est agriculteur, ton voisin ?
Il est agriculteur, oui. Il élève des vaches, en fait, pour la viande, tout ça. Et un peu de cochon aussi, voilà. Donc, toutes les terres autour de ma ferme, en fait, c'est lui qui cultive. Et il ne traite pas du tout non plus. Enfin, il est pas en bio, mais il est très respectueux de l'environnement aussi. Il n'y a pas de souci, voilà. Du coup, c'est pour ça, la ferme est dans un cadre un peu préservé aussi. Au niveau écologie, il y a plein d'oiseaux. De salamandres aussi, on en trouve beaucoup. Le cadre est vraiment chouette.
Et pour finir, on retrouve Anne au marché de Pont de Buis au mois d'octobre.
C'est super.
Comment ça se passe le marché, Alain ?
Ça se passe bien, mais il y a des hauts et des bas, quoi. Ça dépend des semaines, en fait. Des fois, il y a du passage, des fois un peu moins.
Donc c'était ta première saison au marché ?
Voilà, c'est ça, la première saison ici. Et bah, je vais bientôt arrêter dans un mois en fait, parce qu'après ça sera l'hiver et je vais me consacrer que à la vente à la ferme et au restaurant autour pour la vente. Voilà.
Et un bilan pour la saison ?
Plutôt positif quand même, je suis contente. La vente à la ferme, ça marche très bien. C'est surtout les voisins qui viennent et c'est très bien comme ça. Et les restaurants aussi, c'est plutôt pas mal, c'est des débouchés sûrs où c'est régulier en fait, donc c'est plutôt bien. Comme ça, je sais comment planifier aussi mes quantités de légumes au champ, tout ça. Et c'est plutôt positif, je suis contente, ouais.
Et un bilan pour le marché ?
Ça pourrait être mieux pour moi, mais c'est un petit marché aussi, c'est pas un grand marché comme on peut trouver ailleurs. C'est déjà ça, puis ça me permet de me faire connaître aussi un peu plus dans le coin. Donc c'est plutôt bien aussi quand même, je suis contente.
Les Jardins de Tiraden, c'est le nom de la ferme maraîchère d'Anne Raoulas que vous retrouvez notamment sur Facebook. Ce reportage a été réalisé par Olivier Béon à l'interview, Séverine Crène et Véronique Museau pour l'écriture, le montage et la réalisation.